Donc aujourd'hui, je vais aborder ce sujet de ce qui est permis, interdit, et comment on doit, où sont les paramètres de notre vie, et pourquoi, en vue d'une vie saine, une vie équilibrée, une vie qui se construit positivement. Donc voici, 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Donc tout de suite, on voit que l'asservissement, c'est-à-dire l'esclavage, est quelque chose que Paul veut exclure de sa vie. Et il invite les fidèles de l'Église de Corinthe à éviter les esclavages. Bon, alors j'explique. La ville de Corinthe a été construite 100 ans avant Jésus par la volonté de l'empereur. Le Péloponnèse est un bras de la Grèce qui descend dans la mer Méditerranée, et il y a un goulot d'étranglement, il y a un isthme si vous voulez, un peu comme au canal de Panama, il y a le canal de Suez, il y a un isthme. Et bien pratiquement là, il y a un isthme, et l'empereur avait eu l'idée géniale de poser des billes, des troncs de chêne sur 10-15 km, un à côté de l'autre, rempli de graisse, et il avait implanté une ville où il y avait beaucoup d'esclaves, 550 000 habitants, d'un côté, du côté ouest, et de l'autre côté, la ville de Sancré, et qui était aussi, à l'autre bout, très habitée, par des esclaves, des gens pris de tous bords, de tout pays, qui n'avaient plus d'identité personnelle, qui étaient vraiment dépersonnalisés et accaparés par l'Empire romain pour tirer les bateaux d'un côté à l'autre, de l'est vers l'ouest et de l'ouest vers l'est, pour éviter plusieurs jours de navigation alentour du Péloponnèse et avec tous les risques de tempêtes surtout, et les récifs. L'Empire romain avait fait cela, et il y avait dans ces villes-là énormément, bien sûr, d'esclaves, mais il y avait aussi des fabricants de cruches, d'urnes, d'amphores, comme on appelle ça, parce que c'est là-dedans qu'on met le blé, l'huile, enfin tous les biens pour les conserver. Et il y avait un troisième métier, c'était la prostitution. La prostitution faisait rage dans ces deux villes. Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils sont déphasés, déboussolés, et qu'ils n'ont plus de référence familiale, ils n'ont plus de relations affectives avec le papa, la maman, les cousins, les frères, les sœurs, les épouses, ils ont été volés, kidnappés, si vous voulez, ils sont livrés à eux-mêmes, et nous savons très bien que pendant la guerre de 14-18, 40-45, et comme ça dans tous les exodes forcés, les centaines de milliers d'hommes qui ont vécu en Allemagne, beaucoup ont eu des relations avec des femmes allemandes, et en France, beaucoup de femmes ont eu des relations avec des soldats allemands. Ça a duré 5 ans. Et c'est la même chose avec les coloniaux au Congo. Il y a eu des relations entre des hommes blancs, des femmes blanches et les Africains, les hommes et les femmes noires. Et donc, on a eu ça en Algérie. La France a été 130 ans en Algérie, et elle a occupé le terrain d'une manière injuste, le pays, mais il y avait en Algérie, bien sûr, des mariages, en tout cas des relations sexuelles entre hommes et femmes de différentes origines, ce qui a donné un mélange incroyable de populations. Avec des troubles, évidemment, des troubles dans le mental, des troubles dans les comportements. Alors, à Corinthe, comme à Sancré, il y avait des troubles de comportement, des troubles d'identité, comme aujourd'hui on en trouve beaucoup dans notre société. Et c'est pour ça que j'ai pris ce sujet de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Alors je continue. Verset 13, « Les aliments sont purs pour le ventre et le ventre pour les aliments. » Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Donc, évidemment, nous savons bien que nous sommes corruptibles, donc nous disparaissons. Et c'est Dieu qui l'a permis depuis le péché d'Adam et Ève. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Donc, le corps n'est pas pour le dérèglement, azélia. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Donc, Paul affirme que nous avons un corps, un être, avec un psychisme, un esprit, et tout cela est la propriété de Dieu. Et pour un chrétien, il doit avoir la conscience clair et net que il n'appartient pas au désir, aux convoitises, aux folies, au déséquilibre. Il appartient à Dieu et à sa sagesse, à sa sainteté, à son Saint-Esprit. Voilà. Et Dieu, verset 14, et Dieu qui a ressuscité le corps nous ressuscitera aussi par sa puissance. Donc ce corps, bien sûr, âme et esprit, participera à la résurrection. Pourquoi ? Parce que Christ ressuscité, puisque nous avons cru, nous sommes incorporés à Christ, nous sommes attachés à Christ, et nous avons reçu de la vie éternelle et la puissance de résurrection en nous. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Verset 15. Prendrai-je donc des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Donc un chrétien peut avoir la tentation de se prostituer. Pourquoi ? Un chrétien qui est devant la télévision, qui regarde des films X et qui prend plaisir, il se prostitue. Un chrétien qui lit des livres porno, etc., se prostitue. Et si un chrétien a des relations avec une personne en cachette, alors qu'il a sa famille ou qu'il est célibataire, il se prostitue, c'est de la débauche. Et nous ne sommes pas chrétiens pour faire cela. Nous sommes chrétiens pour être purs et pour nous comporter avec un corps propre et pur qui appartient à Christ. Verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, il y a une union, je dirais même métabolique, physiologique parfois, par les relations corps à corps. Et puis, le psychisme, il y a un mélange des influences de l'un et l'autre, l'un sur l'autre. Et on trouve beaucoup de gens déboussolés à cause de cela, ils ne savent plus vraiment qui ils sont. Et ils s'attachent passionnément à quelqu'un, mais en plus, parfois ils se querellent, ils se divisent, ils se rejettent passionnément et passionnellement. Ils n'ont pas la maîtrise, leur esprit ne contrôle rien. Et l'Esprit Saint ne sait pas les sanctifier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi un chemin où l'Esprit Saint ne peut pas se compromettre. Alors, verset 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc, je vais dire une seule intelligence. Il a les idées, les pensées de Jésus. Il a la même façon de voir que Jésus. Et il a une vision du monde propre. Alors, verset 18, « Fuyez l'impudicité, donc le dérèglement. » Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Donc, par exemple, du trafic d'argent, mentir dans les affaires, rouler comme un fou sur la route, ne pas respecter les règles sociales, tricher avec le chômage, ou voler le patron, je sais pas moi, ou être patron et voler les ouvriers, tout cela, ce sont des péchés, mais ils sont hors du corps, évidemment. Mais celui qui se livre à l'impudicité, donc un dérèglement corporel et psychique, pêche contre son propre corps. Il y a deux façons de voir le mot corps en grec. En français, il n'y a que corps, mot corps. Mais en grec, il y a sarx, c'est l'humain, c'est toute la chair, et puis il y a soma. Ben, soma, c'est le beefsteak et les os, hein, si vous voulez. Eh bien, on ne peut pas livrer, que ce soit sarx ou soma, on ne peut pas le livrer à l'impudicité, à l'œuvre du péché. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Donc sarx, notre humanité, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous avons un maître en nous. Quand quelqu'un a accepté Jésus, il a un maître en lui. Et c'est un tort, et je pense que c'est ça qui est arrivé souvent dans l'histoire de la chrétienté, c'est que nous pensons que nous sommes maîtres et propriétaires de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Alors que si nous avons donné notre vie à Jésus, notre corps lui appartient, nos biens lui appartiennent, nos pensées lui appartiennent. Il faut être raisonnable, ou alors c'est qu'on n'a pas vraiment accepté le Seigneur Jésus. On n'a pas accepté comme Seigneur et Maître. Soyons sincères, est vrai. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 5 que votre oui soit oui. Oui à Jésus, mais oui à la vie qui appartient à l'esprit, l'âme et le corps qui appartient à Jésus. Et s'il y a un non au péché, c'est un non à tous les péchés déguisés qui reviennent, qui s'insinuent dans notre vie, qui veulent revenir par le tentateur ou par notre faiblesse, notre chair, les influences du passé, etc., des autres aussi, de la société. Donc c'est un non complet, c'est pas un demi-non. Et entre les deux, tout ce qui est entre les deux vient du diable. Donc nous voyons bien que vient du malin. Nous voyons bien qu'ici, Paul est très clair pour que le chrétien n'échoue pas dans sa vie chrétienne. Certains considèrent que Paul est un légaliste. Moi, je pense que c'est non. Paul est simplement un très grand réaliste. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Vous avez été racheté à un grand prix, Jésus à la croix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tout appartient à Dieu, depuis qu'on s'est donné à Jésus. J'ai reçu la visite d'un jeune monsieur qui a de très gros problèmes mentaux d'après les psychiatres et psychologues. Ça m'arrive souvent. Et nous avons prié, je voyais bien que la première fois, il était extrêmement attaqué, très 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 touché et en même temps très attaqué. Une torpeur invraisemblable, une incapacité de continuer à suivre et de véritables attaques. Donc il fallait prier pendant deux jours, je dirais, prier pour lui et prier pour qu'il revienne, prier pour qu'il soit en état de pouvoir converser et qu'il soit en état de pouvoir écouter la parole de Dieu, la lire et se donner à Christ. Donc c'était quelque chose, une supplique que j'ai adressée au Seigneur, et quand il est revenu, nous avons passé une heure et demie ensemble, et il a accepté Christ au bout d'une heure. Cet homme pourrait rester en psychiatrie. Cet homme pourrait avoir des piqûres dans les fesses tous les mois ou tous les 15 jours, dans le temps on mettait des camisoles de force. On les enfermait dans des espaces confinés avec des barreaux, des maisons avec des grillages très élevés et très costauds, et entouré d'hommes, d'un personnel musclé. Et pratiquement, on avait des chambres tapissées, des chambres d'isolement où la personne se tapait la tête, les bras, les mains, les pieds, jusqu'à l'épuisement et parfois se blessait. Pour qu'elle ne se blesse pas, tout était tapissé, molletonné, partout. Au sol, au plafond, au mur. Aujourd'hui, on a trouvé mieux avec les médicaments, en ingérant, soit par la piqûre, soit par la bouche, en l'avalant. Des médicaments sont des véritables prisons, des véritables camisoles, qui empêchent la personne désormais, après, de réfléchir et de pouvoir éventuellement accéder à une certaine liberté. Pourquoi ? On part de l'idée qu'elle n'a plus de liberté, mais qu'elle peut être dangereuse pour elle-même ou pour les autres, donc on la maintient dans une captivité, on la préserve. On la met en réserve, comme on a mis les Indiens en réserve, comme on a mis même des Noirs en réserve dans certaines régions du monde. Et il est clair que aujourd'hui dans nos sociétés, la psychiatrie a pris un pouvoir énorme avec les médicaments, la prison chimique, mais est-ce que c'est cela que Dieu veut? Dans les deux, trois jours qui ont, entre les deux visites, j'ai prié pour que cette personne n'aille pas en psychiatrie. Elle devait s'y rendre et soit en pavillon fermé. Et grâce à Dieu, cette personne a été refusée par le médecin et ça m'est déjà arrivé quelques fois en ayant prié. Et qu'on puisse se retrouver et puis on puisse parler et mettre les choses au point. Et avec l'aide de Dieu, avec Jésus ressuscité, la personne a accepté un nouveau chemin. Et bien qu'elle ait encore des déficiences, je ne dis pas qu'elle aura peut-être besoin de médicaments, mais pas des prisons chimiques, pas une camisole, un forcing sur elle. Si certains médicaments pallient à certaines faiblesses, ce n'est pas la même chose qu'une camisole de force chimique. Et donc, cette personne était là et j'étais heureux, j'étais... Naturellement, je l'accueillais de manière discrète et puis elle ne comprenait pas que le médecin l'avait refusé, mais moi j'étais content, je lui ai dit, j'avais prié pour ça, si c'était d'inventer de Dieu, qu'elle soit, elle puisse revenir et qu'on puisse se parler. Et évidemment, en ayant lu des textes, Jean chapitre 10 et le bon berger, cette personne après, en ayant eu des entretiens, en priant, j'ai prié quelques fois, puis après j'ai demandé, est-ce que tu veux que je prie avec toi pour donner ta vie à Jésus? Et j'ai vu que c'était réellement délibéré, c'était consenti, c'était vraiment accepté. Donc cette personne n'était pas venue en visite comme un touriste ou comme un prédateur chez moi, parce qu'il m'est arrivé d'avoir des prédateurs qui m'empoisonnent la vie. Hein. Alors, son corps, sarx, c'est-à-dire l'esprit, l'âme, et les os, les muscles, tout le reste, le métabolisme, deviennent le temple du Saint-Esprit, de Dieu. Et désormais, il appartient à Dieu, ce jeune homme. Je lui ai raconté d'autres cas que j'avais vécu, de personnes qui s'étaient converties comme ça et qui appartenaient à Christ. Je ne suis pas convaincu que tous ceux qui appartiennent à Christ vont dans les églises. Et il est clair que ce n'est pas de mon devoir de les pousser dans les églises. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui doit leur donner l'intelligence, la sagesse ou la prudence, en même temps, de choisir la bonne église. Donc, bien qu'il soit le temple du Saint-Esprit en eux, si vous voulez, qu'ils soient dans la gloire du Seigneur, ils sont dans l'esprit, dans la résurrection, l'Esprit Saint, avec Jésus, ils vont devoir apprendre la parole de Dieu, ils devront apprendre à prier, et il faudra qu'ils soient soutenus. Ils sont de nouveau nés dans la foi, et il faudra qu'ils aient des conseils, et parfois qu'on leur trace des limites rouges, de manière à ce qu'ils ne chutent pas. Et c'est évident que l'Église a un rôle. C'est pour ça que je prends 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. C'est un texte qui ressemble à celui de 1 Corinthiens 6, verset 19, mais c'est pas le même sens. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Donc ici, il s'agit d'un collectif, il s'agit d'une communauté chrétienne locale, l'Église de Corinthe. Il ne s'agit pas de la personne, chaque personne individuellement est un temple, mais l'ensemble peut être aussi considéré du point de vue de Dieu, et Paul l'a affirmé, et on trouve d'autres apôtres qui le disent aussi, l'ensemble de ces petits temples forment un grand temple, et le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite. Donc, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, donc est dans l'Église avec des comportements négatifs, et détruit tout, il se détruit lui-même et il détruit les autres, de manière ostensible ou de manière rusée et sournoise, peu importe, c'est des choses qui arrivent. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, c'est-à-dire il ne sera pas recevable auprès de Dieu quand Jésus reviendra. Et il connaîtra le châtiment éternel. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Donc, pour Dieu, l'Église de Jésus-Christ est précieuse. On ne peut pas s'attaquer à ça. Je n'ai pas parlé des institutions, des basiliques, des cathédrales, des comptes en banque, des églises. Je n'ai pas parlé de tous les organigrammes, des organisations religieuses. Je parle des êtres spirituels qui forment l'Église. Donc des personnes nées de nouveau, converties réellement. Donc, dans cette perspective-là, il faut savoir que nous avons un respect, un immense respect vis-à-vis de notre corps, de notre esprit, de notre mental à avoir, dès que nous sommes chrétiens, on ne peut plus faire n'importe quoi. Deux, un immense respect pour le corps de Christ, le temple, l'église locale. Et un respect, une considération pour l'église. Et il n'est pas nécessaire de dire je suis chrétien, c'est bien, je suis tout seul, ça me suffit. C'est pas dans le plan, le temple de Dieu. C'est pas dans la parole de Dieu. Pensez à Jean, chapitre 13, verset 33-35, quand Jésus dit on vous reconnaîtra ce signe que vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, si nous nous aimons les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c'est formidable. C'est véritablement ce que Dieu a demandé. Maintenant, il y a le chrétien en tant que tel, temple de Dieu. Il y a l'église, le temple de Dieu en tant que tel. Et puis, il y a le couple dans l'église. Là, il y a un problème en Occident. Il y a le couple. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est précieux et qu'il ne faut pas détruire. Alors nous prenons Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Donc, je vais démarrer Éphésiens 5, verset 7. Je vais lire pas mal de versets pour qu'on ne considère pas que je veux démarrer au verset 22, que c'est mon objectif. Hein? Parce que ce n'est pas mon objectif. N'ayez donc aucune part avec eux. Avec qui? Les cupides, les impurs. Regardez le verset 5. Les idolâtres, etc. Hein? Les impudiques et tout. Alors, n'ayez donc aucune part avec eux, donc c'est clair, il y a une coupure radicale dès qu'on est chrétien avec le comportement des autres. On ne peut plus se rouler dans la boue comme le cochon ou comme le chien, le vomi qu'on mangeait avant. Bon, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » La lumière divine, c'est la sainteté, évidemment, c'est Jésus-Christ. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, une œuvre en nous, si vous voulez, une œuvre qui est extrêmement importante, c'est que dès qu'on devient chrétien, on doit accéder au domaine de l'examen de conscience. La franc-maçonnerie, la libre pensée, libéral, et je dirais même les socialistes parlent de libre arbitre, mais moi je vais parler plutôt de libre examen. Nous avons un examen de conscience à faire et nous sommes responsables de ce qui se passe en nous et qui retombe sur les autres, évidemment. Le libre arbitre, c'est autre chose. Le libre arbitre, c'est que je choisis ce qui est bien, ce qui est mal, moi-même. C'est moi qui fais mes règles. Ça, c'est quelque chose que Satan a proposé à Adam et Ève et qu'ils ont accepté. Le libre arbitre n'est pas quelque chose que Jésus a prêché. C'est pas ça. Alors, je reprends le mot, verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, donc ce qui est digne d'être agréé par le Seigneur, Jésus-Christ. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, donc aux actions, aux engagements, aux paroles, etc., qui ne portent pas de fruits, les œuvres de péché, évidemment, mais plutôt condamnez-les. Donc il y a une prise de position. Le chrétien doit passer par un cap de séparation, non pas d'opposition aux autres, non pas de rejet des autres, mais de séparation dans les comportements. Il faut qu'on le reconnaisse. Une coccinelle n'est pas un doryphore sur les patates. Le doryphore détruit la patate et pas la coccinelle. Comprenez bien? Dans ce monde, il faut qu'on choisisse. On est doryphore ou coccinelle. Alors, allons plus loin. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font en secret, évidemment. On est très faux dans le monde. Mais on a de l'audace dès qu'on a bu un verre, dès qu'on est en compagnie, on est très libertin, très libéraux, etc. On prend des audaces, mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé. Hein. Je peux prendre des textes dans la Bible de 2-3 000 ans, même plus, si vous voulez, pour le montrer. C'est depuis qu'Adam et Ève ont péché, il y a des gens qui aiment bien de faire des péchés en cachette, et ça c'est la grande majorité, puis il y a des autres qui sont effrontés, impertinents, et ils ne se privent pas de le montrer. C'est chacun son genre, hein, pour provoquer, souvent, par audace et surtout par impertinence envers, à mon avis, envers les règles, le peu de règles qui restent. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt condamnez-les. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Donc, tout ce qui est que Dieu n'aime pas sera, le jour que Jésus revient, mis au clair devant tout le monde. Un bilan sera dressé au nez à la barbe de chacun. Comme j'ai une barbe, je serai servi. Hein. Mais ce qu'il y a, sachez bien, à la lumière, on ne peut voir plus, tout sera dévoilé. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Sous la lumière des immenses projecteurs divins, que Dieu est le maître de la lumière. Dieu est la lumière lui-même. Jésus l'a dit, je suis la lumière du monde. Et donc, c'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, dans l'Épître aux Éphésiens, dans cette grande ville de Turquie, qui était la deuxième ville la plus grosse de l'Empire romain, il y avait déjà dans cette église des gens qui roupillaient spirituellement, c'est-à-dire qui ne prenaient plus rien, attention à rien, ils se fiaient qu'ils étaient chrétiens, ils allaient à l'église, et puis tout le reste, ils faisaient comme tout le monde. Ça, c'est sûr, c'est encore aujourd'hui. Ils faisaient comme tout le monde. Et l'image de dormir, c'est ça. Pourquoi ? Parce que si on dit qu'ils sont morts, ça veut dire ils ont perdu leur salut, ils sont privés de Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas ça que Paul a voulu dire. Ils dorment. Ils font comme s'ils ne vivaient plus spirituellement et comme s'ils n'étaient plus chrétiens. Mais, il dit, relève-toi d'entre les morts. Tu vois tous les autres qui ne sont pas chrétiens, tous les autres qui font ci et ça, librement. Tant qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, il leur semble bon de le faire. Et ils pensent que c'est bien de le faire. Mais toi, tu as accepté Jésus. Toi, tu as entendu la parole de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester comme ça? Allez, réveille-toi. Mets-toi debout. Et Gaïro, remets-toi debout. Et Christ éclairera. Le Seigneur Jésus est toujours là pour l'éclairer. Comment? Eh bien, par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière sur mon sentier, dit le psaume 119. Elle l'éclaire sur mon sentier pour que je m'aide les pas. La lumière de Jésus se trouve à travers ses enseignements. Si vous en doutez, vous lisez Matthieu chapitre 5 à 7. Vous lisez autant qu'il faudra, vous verrez si ce n'est pas la lumière. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Donc, circonspection, c'est inspecter, mais tout autour, faire tout le tour complet de ma vie. Donc, c'est le même mot, si vous voulez, qu'au verset 10, examiner. Non, comme des insensés, donc des fous qui ne connaissent pas la vérité, qui ne connaissent pas les enseignements de Dieu, mais comme des sages, comme des gens qui aiment obéir, qui aiment les avis de Dieu et qui les mettent en pratique. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça veut dire, ne perdez pas votre temps. Vous serez peut-être mort demain, après-demain, dans une heure. Même si vous mourrez dans 30 ans, faites attention. Vous prenez cette habitude de vivre n'importe comment, vous arriverez une heure avant la mort en vous demandant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis dans cet état-là? Pourquoi j'ai fait tout ça? Donc, il faut racheter le temps. On ne peut pas. Le mot racheter, c'est comme si on rachetait un esclave. C'est-à-dire, je mets le prix pour acheter l'esclave, que je me suis fait moi-même. Moi, chrétien, je dois mettre le prix dans l'obéissance et dans la résolution, dans la discipline, dans la volonté. Je dois me réveiller, je dois mettre le prix et demander pardon à Dieu, évidemment, et lire ma Bible, prier pour me délivrer des esclavages où je suis tombé. Moi, enfant de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu peut être charnel, évidemment. Un membre de notre Église a demandé, mais les chrétiens charnels n'existent pas, il n'y a que des chrétiens spirituels. Non, ça ne va pas comme ça, malheureusement, ça serait très beau, trop beau. Donc, racheter le temps, c'est comme le mot, comme pour racheter un esclave, on donnait de l'argent pour le racheter, eh bien, pratiquement, j'ai un prix à payer pour me racheter. Je suis toujours sauvé, mais je dois avoir un comportement sain et agréable à Dieu. Je dois pouvoir ne plus faire d'œuvres infructueuses, ténébreuses, et donc et me moquer de Dieu. Il est toujours temps de changer, de reprendre la route. Il est toujours temps de sortir de mon endormissement. À force de dormir, quand on dort de trop, on peut se payer une thrombose, une embolie. Le sang, le cœur bat lentement, le sang, un tuyau qui se bouche, c'est ça, hein, une embolie. Eh bien, dans la vie spirituelle, quand on s'endort, il y a le tuyau qui se bouche aussi. On ne comprend plus comment on peut être chrétien, on ne sait plus comment on doit faire, on est paumé. Et là, il faut l'Église, il faut les frères et les sœurs. Il faut se réveiller, retourner vers les hommes pieux, les femmes pieuses que Dieu a mis sur votre route. Il faut voir les frères et les sœurs, il faut voir la parole de Dieu, il faut prier. Il n'est pas bon de rester seul quand on a pris du retard. Alors, vous savez très bien que dans toutes les batailles se gagnent quand l'ennemi a fait le tour par surprise et a battu l'arrière-garde. Quand il a battu l'arrière-garde, c'est fini. L'armée centrale, le corps de l'armée est cerné. Si vous êtes seul, si vous vous comportez mais comme des êtres seuls, vous n'avez pas la possibilité longtemps d'être en sécurité spirituelle et de pouvoir rattraper le corps de Christ. Vous y êtes toujours inscrit, attaché, mais vous avez tout fait pour le bâcler, le mépriser ou l'ignorer. Eh bien, retournez avant que l'arrière-garde ne soit détruite. Dans le psaume 16, verset 3, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, les femmes aussi, sont l'objet de toute mon affection. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Quand vous rencontrez quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, qui est honnête, hein, c'est avec le Seigneur, qui a une vie chrétienne, rappelez-vous qu'il y en a d'autres et qu'il faudra un jour les rencontrer. Il faudra un jour recevoir quelque chose d'eux. Il ne faudra pas partir de l'idée « je me suffis à moi-même ». Alors là, vous êtes déjà en péril. Vous êtes déjà en péril. Vous êtes déjà dans ce « réveille-toi qui dort ». Alors, je vais prendre encore le verset 17, Éphésiens 5, verset 17. « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Inconsidéré, c'est-à-dire, quand je considère les choses, c'est-à-dire que je les pèse, je les examine. On revient toujours au verbe examiner du verset 10, hein, c'est la même chose de toute façon. Mais ne soyez pas quelqu'un qui n'examine plus rien du tout. Une tête folle, un oiseau sans cervelle. On ira dans l'épître de Jacques après, vous allez voir, les têtes folles et les chrétiens, comment ils peuvent tomber, dans quel état. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La compréhension de ce que Dieu veut pour moi n'est pas la même chose que pour l'autre chrétien dans l'Église. Pour l'autre chrétien qui est à 100 km. Je suis concerné directement par la volonté de Dieu. Je ne peux pas dire Je fais comme les autres. Quand Jésus est arrivé tout près de Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? C'est-à-dire, tu ne vas pas regarder les autres. Je veux savoir si tu m'aimes. Et tu ne fais pas ça en comparaison, en relation avec les autres. C'est-à-dire, centralement, Jésus-Christ est ma vie. Centralement. Corps, âme et esprit. Et il est clair que la volonté du Seigneur, c'est de lui appartenir. D'être en communion avec lui. Si vous allez dans l'Apocalypse, lisez chapitre 1, vous verrez que l'église d'Éphèse a chuté. Elle est magnifique, hein, cette église-là. Oui, il y en a comme ça, des églises comme ça. Il n'y a plus d'amour pour Jésus-Christ. On se demande où il est. Dans leur cœur, hein, dans le cœur. Donc, attention à nous, hein. Je dis ça avec un sourire, mais ça m'est arrivé aussi pendant de nombreuses années. C'est lamentable. Ne vous enivrez pas de vin, eh oui, la mangeaille et le pinard sont des choses qui provoquent, qui provoquent le relâchement, qui diluent l'attention, qui empêchent d'examiner les choses avec sagesse, pondérément, avec maîtrise, on perd toute maîtrise. Et c'est de la débauche. Finalement, ça tombe dans le dérèglement. C'est déjà le point de départ d'un dérèglement qui va se contaminer à d'autres sortes de d'autres domaines dans ma vie. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chers amis, je dis que un signe de bonne santé, c'est quand vous, même si vous chantez comme un canard. Vous êtes dans la maison tout seul, dans l'auto, vous chantez des chants chrétiens. Dieu ne vous demande pas un grand prix comme la Calas. Il vous demande de chanter comme vous pouvez chanter. Il vous demande de lui parler comme vous pouvez. C'est tout. Et tout le monde n'est pas doué pour faire des discours, tout le monde n'est pas doué pour faire des chants hyper mélodieux, mais chantez de tout votre cœur au Seigneur. Quand vous êtes dans votre lit, dans votre chambre, à la toilette, dans le jardin, partout, au bois. Entretenez-vous par des psaumes, ils sont dans la Bible, au milieu de la Bible, par des hymnes. Donc souvent dans les églises, il y a des carnets d'hymnes qui résultent d'une maturation, d'une vie spirituelle de certains chrétiens. Ils sont pleins de richesses, il faut les prendre. Des cantiques spirituels, donc... chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, par la louange, on met le Seigneur sur le trône dans notre cœur. Le trône dans notre cœur. C'est là qu'on montre à Dieu qu'il est précieux pour nous. Et ce trône dans notre cœur, entouré des louanges de Dieu, si vous lisez Apocalypse chapitre 4 et 5, vous voyez autour de trône, il y a plein de chrétiens, il y a des anges et des archanges qui louent le Seigneur. Et les prières qui sont faites sur la terre par des chrétiens sont prises par les anges dans des coupes en or et offertes à Dieu. Ce qui veut dire que nos prières, où qu'elles soient, au milieu du bois, dans la chambre, dans le jardin, n'importe où, à vélo, ces prières sont agréables à Dieu, si elles honorent Dieu, elles mettent Dieu à la première place dans mon cœur. Je reconnais que Dieu est sur un trône dans mon cœur. Et mon cœur n'est pas une poubelle de débauche et de péché qui me dévore tout le temps. Voilà. Verset 20, rendez continuellement grâce, donc dire des merci pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'étais en train de prendre des bûches sur un tas de bois pour les trier, pour les ranger. Les petites d'un côté, les grosses de l'autre. Puis une de nos filles arrive, elle me dit, « Papa, je me demande s'il n'y a pas un nid de bergeronnette dans ce tas de bois. Tu devrais arrêter. Viens, on va se cacher. On va se cacher dans les tables, on va regarder. » Parce que regarde sur la poteau, il y a une bergeronnette avec un petit verre de terre dans sa bouche. Et regarde, il y en a une autre là-bas, dans l'arbre. Elle crie, elle veut, on dirait qu'elles veulent qu'on s'en aille. Donc on se cache, on regarde, effectivement, Elles ont été toutes les deux dans le tas de bois, données à manger leurs petits. Et donc, cette bergeronnette, ces deux d'ailleurs, qui se promenaient sur le trottoir, à chaque fois que je passais tous les jours, plusieurs fois, je les aimais. Parce que ces petites bergeronnettes, elles ont un œil qui brille et elles rencontrent votre regard. Et quand je suis au champ avec mon vieux tracteur, du même âge que moi, qui marche bien, qui fonctionne bien, je suis en train de travailler, les bergeronnettes viennent tout près. Elles sont là, 2-3 mètres, elles me suivent, elles me regardent. Et puis, elles sont si gracieuses, magnifiques. C'est des œuvres d'art perpétuelles. Et je rends grâce continuellement pour les bergeronnettes. Rendez continuellement grâce pour tous les frères et les sœurs. Et voyez-les comme des bergeronnettes, comme des rossignols, comme des canaris, comme des rouges-queues. Voyez avec gloire, avec admiration, vos frères et vos sœurs. Et voyez tout ce que Dieu a mis à l'entour de vous, les êtres, les frères et les sœurs, et même les ennemis, avec action de grâce. Satan ne peut pas vous toucher si vous êtes dans un état spirituel de ce genre-là. Il ne peut pas vous ôter la vie éternelle. Il peut peut-être ôter la vie physique, mais qu'est-ce que c'est? On ne meurt qu'une fois. Et puis, on ressuscite. Alors, il y a un texte formidable à partir du verset 22 et jusqu'au verset 33, c'est à propos du fonctionnement de l'homme et de la femme. Bien sûr, il m'est arrivé quelquefois, quand il fallait faire un mariage, quand j'étais prêtre catholique, que les hommes demandaient que je prenne ce verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. » Paf. Ça, quand je sentais ça, je détestais ça. Même si c'est biblique, c'est pas l'occasion du machisme. C'est pas l'occasion de faire de la domination et d'empoisonner la vie à sa femme. Et de déshonorer Dieu. Parce que la femme a le droit à la vie divine à part égale. À part égale. Pas une demi-part. Alors, il est dit ceci, c'est que le mari, au verset 25, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui, faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Chers amis, dans ce verset 27. Si je démarre au verset 25. C'est l'homme et la femme qui sont cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. J'oserais pas le dire. Je pense que c'est globalement tous les êtres humains qui composent cette église et qui sont nés de nouveau. Mais l'homme et la femme qui sont en couple font partie intégrale de cette qualité spirituelle et de cette mission de sainteté. Je n'aime pas le mot devoir de sainteté, parce qu'on tombe dans l'égalisme, mais la mission, la vocation de sainteté est considérable pour le couple chrétien. Alors, le couple chrétien aujourd'hui est terriblement attaqué, il est terriblement torpillé, lapidé. Nous travaillons, l'homme et la femme travaillent. L'homme et la femme se voient peu. Quand ils rentrent, il y a la télévision allumée, les enfants avec les téléphones, les portables, les smartphones, tout le reste. Et tout le monde est dans ses manies. Et il est rare qu'on mange en paix ensemble, en priant et en ne se coupant pas la parole et en se respectant. Très rare. Je dis ça pour les familles chrétiennes. C'est pourtant là le point de départ, pour voir de facto cette Église, regardez bien, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est là qu'on le voit, à table, l'homme, la femme et les enfants. Alors je prends maintenant, évidemment, j'ai fait rapport à cela, quand j'étais prêtre ouvrier et j'étais délégué syndical dans un syndicat super rouge, et que j'avais posé la question, pourquoi ne donner pas une allocation à la femme au foyer, hein, pour qu'il y ait moins de chômeurs chez les hommes, et puis que certaines femmes ne soient pas obligées d'aller travailler, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, elles préféreraient s'occuper de la famille, de la maison, des enfants. Et aussi d'autres choses, des affaires de Dieu. Eh bien, en public, devant 300-400 personnes, les trois responsables m'ont répondu, mais monsieur, en rigolant, ça fait longtemps que nous avons voulu, nous avons travaillé longtemps pour ça dans le domaine politique et syndical, pour supprimer les 3 cas. Cas, la femme doit passer outre des 3 cas. Kindern, pas besoin d'enfant. 2, Köken, pas besoin de faire à manger. Kirche, pas besoin d'église, pas de réunion d'église. Et hop, dans le système économique, et hop. Et voilà ce qu'on est arrivé, c'est que même les chrétiens, les familles chrétiennes qui sont dans le système et qui adoptent le mode de pensée et de vivre sans s'en rendre compte que ça résulte d'une idéologie de destruction de la foi chrétienne. Les familles chrétiennes ne se rendent pas compte qu'elles baignent dans une eau souillée qui a été, qu'on leur a mise pour se laver dedans, se rouler dedans. Et il y a des familles qui se détruisent alors qu'elles se disent chrétiennes parce qu'elles sont happées dans le système et c'est la sainte pagaille à la maison. Il n'y a pas de sainte pagaille, il n'y a que l'horreur de la pagaille. Il y a aujourd'hui une grande nécessité et c'est pour ça que j'aboutis, je veux finir par l'épître de Jacques. Comment peut-on avoir une église sainte à la maison? Je viens déjà d'en parler. Comment peut-on être un être saint, un temple de Dieu, saint? Je viens d'en parler. Quelle responsabilité avons-nous vis-à-vis du corps de Christ, de l'Église en général? Je viens d'en parler. Mais maintenant, un point très précis. Jacques, chapitre 3. En anglais, c'est James. Hein. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, attention à ceux qui donnent des enseignements aux autres. Ils seront très jugés sévèrement. Et je le sais. Nous bronchons tous de plusieurs manières, donc nous péchons. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Il ne pêche pas en parole, hein. C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc il faut arriver à contrôler la langue. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. J'ai conduit la charrue, les charrettes et tout ça. U, c'est en avant, het, à gauche, har, à droite, et on tirait dessus, il s'arrêtait. Bon, pratiquement, on tirait avec les deux. Et c'est parce que la barre dans là faisait mal. Ça s'appelle le mort. Alors, regardez bien, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Oui, oui, oui. Donc ici, la vantardise est déjà dénoncée. Je pense qu'à table et en famille chrétienne, partout dans une famille chrétienne, la vantardise est une horreur. C'est le désir de tromper et c'est le désir de séduire. C'est l'expression d'un désir de paraître plus que ce qu'on est. C'est de l'orgueil. Alors, il est mis ceci. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Vous savez, aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours, la Wallonie, le gouvernement belge, mais Wallon, a interdit de faire du feu pendant plusieurs mois. Partout, hein, à l'extérieur. Ben oui, ce n'est pas quelques averses qui font que la nature est verte, super verte. Il y a beaucoup de taillis, beaucoup de choses qui sont sèches et on peut avoir des incendies. Vous savez très bien qu'on a perdu des millions d'hectares dans tout le monde entier l'année passée, les années qui précèdent, à cause des petits feux qui ravagent après des milliers d'hectares. Alors, et qui ruinent les peuples, les pays. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité, c'est-à-dire du péché volontaire contre Dieu. L'iniquité, c'est ça. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Donc, quand la langue dit des mauvaises choses, c'est l'enfer qui sort par la bouche de la personne. On donne l'enfer dans la famille. L'enfer, c'est le feu qui dévore. Mais ce n'est pas un feu qui purifie, c'est un feu qui détruit. C'est ça que ça veut dire. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. N'oubliez jamais ce verset, chers frères et sœurs. Verset 7. Il y aurait beaucoup plus de paix dans les ménages. Et beaucoup plus de ménages et de couples chrétiens qui iraient mieux. Dans tous les domaines. Et beaucoup plus d'enfants heureux qui auraient de bons modèles. Qui seraient encouragés à devenir chrétiens, à servir le Seigneur. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Et si vous lisez Romains chapitre 3, verset 10 et suivant, vous verrez, nul n'est juste, nul n'est intelligent, tous sont du venin de serpent sous la langue. Et puis, du sang sur les mains, etc. Nul ne connaît le chemin de la paix, etc. Et ça finit au verset 23, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais le venin de serpent sous la langue, c'est quand même quelque chose, une image très forte. Il m'est arrivé dans le ministère, quand quelqu'un m'a persécuté au téléphone depuis 3 ans, je lui sorte ce verset. Tous ont du venin de serpent sous la langue. Et tout d'un coup, la personne a dit, quoi, Jean, qu'est-ce que t'as dit? Répète-le. Je l'ai répété, tous ont du venin de serpent sous la langue. À partir de ce jour-là, cet homme a changé de vie. J'ai reçu une lettre, 2 jours plus tard, Jean, je te remercie, et je te souhaite de continuer ton ministère. Mais pendant 3 ans, au téléphone, à tout bout de champ, il me harcelait avant. J'imaginais un verset qui a eu autorité, qui a dévoilé son cœur. La parole de Dieu, dans la famille que nous composons, même si nous sommes célibataires, nous sommes en réunion avec d'autres célibataires, la parole de Dieu dévoile notre cœur, elle transperce et elle soulage du mal. Vous savez, dans les salles d'opération, il faut des bistouris, il faut des forêts, il faut de tout pour tailler, pour couper. C'est la même chose, la parole de Dieu a ce même effet. Pour soigner. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Eh oui, chère famille chrétienne, dont je suis aussi. Nous sortons de l'eau salée et de l'eau douce de notre bouche. Nous sortons la paix et la guerre. Eh oui, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ici. Il est clair que dans une famille où on sort des mots horribles à l'égard d'un enfant, ou des parents, ou du conjoint, de la conjointe, ce sont des malédictions en fait. Ah, le diable se frotte les mains. Hein. Oh, la pauvre petite famille chrétienne, je vais bientôt la rôtir. Elle l'explosera. Et si elle n'explose pas, elle fera quand même. Ce sera une famille chrétienne artificielle, charnelle. Je serai content, elle restera dans les tribulations. Elle souffrira. C'est ça que je souhaite, moi, Satan. Mais Dieu ne souhaite pas ça. Il souhaite notre sainteté pour que nous soyons là au jour de sa venue, pour l'enlèvement de l'Église. Une Église glorieuse, sans rite ni tache. Rappelez-vous Éphésiens 5. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Enfin, maintenant, il y a des usines pour ça. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses actions, ses œuvres, pour une bonne, par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Alors, il faut dire que le frère de Jésus, là, Jacques, pour la première église chrétienne, il n'y allait pas à cuillère, c'était à la louche. Hein. Je pense que les chrétiens, quand ils sortaient, ils n'avaient pas frotté dans le sens du poil. La parole de Dieu corrigeait, instruisait, édifiait, exhortait, sanctifiait. Hein? Nous y voilà. Alors, verset 16. « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Je me mets dans le lot. Hein. Ça n'a pas toujours été brillant. Et encore, il faut se surveiller, hein, parce que des fois, ça revient à la charge. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Duplicité, c'est double. Hein. Le fruit de la justice, donc la sainteté, est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà, chers amis, dans la prédication d'aujourd'hui, je médite sur les maladies mentales. Je voudrais bien en parler. C'est difficile. Et puis, je me suis dit, c'est trop vaste. J'en rencontre souvent, je ne sais pas par où prendre. Puis, j'en suis arrivé à ce que j'ai dit aujourd'hui. Si nous appliquons ça, il n'y a pas de maladie mentale. Si nous appliquons ça, il n'y a pas de maladie mentale. Nos familles ne fabriqueront pas des maladies mentales. Vous savez très bien qu'il y a un psaume qui dit ceci. Je pense que c'est le psaume 111. Il faut faire attention. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Une raison saine. Vous voyez que le médicament pour éviter les maladies mentales se trouve dans la parole de Dieu et dans le Saint-Esprit et au ciel pour guérir les hommes, tous, parce que nous avons été déchus, nous avons été détraqués par le péché, Adam et Ève, et nos ancêtres, mais nous avons été sauvés par grâce, par le sang de Jésus à la croix, nous avons reçu le Saint-Esprit, pour remettre tout ça à niveau. Et le Seigneur a un gros boulot à faire dans nos vies, mais il faut qu'on accepte qu'il le fasse. Il faut accepter, et il faut collaborer. Et je pense à Dieu, aux maladies, aux fabrications de maladies mentales, dans nos familles chrétiennes, à Dieu, au déséquilibre. Il faut faire attention, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Soyez prudents avec la parole de Dieu, mais prenez-la au sérieux. Ne la négligez pas. Amen.